dieux sont dingues, passe-moi mon flingue. Les dieux sont moches, je la pétoche. Les dieux sont braques, passe-moi le cognac. Les dieux sont vaches, passe-moi la hache. Ils nous auront, moi j'ai les jetons. Les dieux sont chiens, passe-moi le requin.
Et nous voilà dans un univers musical totalement différent et sur un sujet totalement différent. Ou alors une réaction totalement équivalente.
Je suis juste atterré, moi.
Mais tu reconnais cette grande dame
comment dire ce titre ? Anne Sylvestre, non ? Tu nous as sorti quoi ?
Brigitte Fontaine ? C'est son premier album ? Voilà, non, Les dieux sont dingues, c'est une chanson de Brigitte Fontaine.
Tu as des goûts tellement étranges, parfois. Je ne comprends pas ta logique, en fait. Tu as un grand mystère.
Ma logique, c'est de t'éblouir à chaque fois. Alors
je te rassure tout de suite, tu ne m'éblouis pas vraiment. M'atterrer, oui, mais m'éblouir, pas tellement, en fait.
Alors, ah là là.
Donc, pourquoi cette musique, s'il te plaît, Tony ?
Parce que nous allons parler, effectivement, dans les semaines qui viennent, pour fêter le crépuscule des dieux. Alors, j'aurais pu vous passer du Wagner, évidemment.
Ça aurait plus de classe.
Thor Ragnarok.
Mais c'est commun.
Voilà, c'est... Je vous aurais déçu si j'avais passé du Wagner.
Non, du Ragnarok and Roll, pourquoi pas ?
Ça, on peut y réfléchir. Il nous reste encore d'autres émissions. Voilà.
On va bien trouver.
Évidemment, les dieux, les mythologies, les panthéons sont très utilisés dans la littérature, les comics, entre autres, pour différentes raisons, notamment des raisons de censure, puisqu'à l'époque, ça permettait de montrer des monstres comme ils venaient de la littérature et des religions. On n'était pas censuré si on montait un grand monstre, si c'était un géant des glaces. Un géant de glace qui n'avait pas de référence à la mythologie nordique, il aurait été censuré par les commissions de censure. Donc c'est aussi ce qui a expliqué le développement des mythologies dans les années 60. Et on en a eu quand même pas mal qui se sont succédés. Donc dans les prochaines émissions, on reviendra sur le top 3 des mythologies.
Oui, et puis c'est aussi dans le domaine public pour beaucoup de trucs. Donc tu peux les réutiliser sans avoir de petits
exactement.
Soucis.
Et donc, pour la quasi-totalité, sauf pour être en panthéon moderne, on y reviendra dans un instant. On a évidemment dans le tome 3 les dieux de l'Olympe, donc mythologie gréco-romaine, les dieux asgardiens,
nordiques,
voilà. Et les New Gods de Kirby, on va être un fait peu dans un cas à part, mais c'était quand même le centenaire de la naissance de Kirby, on ne pouvait pas passer cette mythologie-là, qui est quand même la plus travaillée des mythologies modernes qui était créée. Voilà.
Et puis qui a eu des influences effectivement bien au-delà de la bande dessinée américaine. Mais c'est vrai que pour reprendre au début de l'histoire, effectivement, les grandes histoires de l'humanité ont tourné autour d'un certain nombre de panthéons. Effectivement, alors qu'on ne reviendra pas tout de suite sur le panthéon grec, alors que, voilà, que c'est la fondation, je dirais, de toutes nos histoires, de toute la façon dont on se comporte, de toutes nos représentations du héros et du vilain. Concrètement, il y a quand même beaucoup de choses. Et même si... Oui.
Oui, j'allais dire qu'effectivement, on a des panthéons de toutes sortes. Alors, des panthéons celtiques, sur on nous avait même fait un panthéon en bande dessinée sur les dieux des Indiens d'Amérique.
Oui.
Voilà. On a eu effectivement toutes sortes de mythologies réelles ou imaginaires, mais effectivement beaucoup de réelles qui ont été réutilisées.
Voilà,
parce que c'est pratique de réutiliser des dieux chinois, des dieux mayas, des dieux aztèques, des dieux africains.
Certes, mais il faut bien les réutiliser.
Ça, c'est autre chose.
Voilà. Et de toute façon, pendant très longtemps, ces mythologies-là, même si elles existaient sur leur terre d'élection, étaient peu utilisées par, je dirais, la culture occidentale et par là la culture mondiale, tout simplement parce que c'était aussi la culture de gens qui avaient été vaincus par la culture, des Européens. Voilà. Il y avait juste quelques représentations qui pointaient de ci par là sur le côté un peu exotique, entre autres, tout simplement par exemple, l'influence de l'orientalisme et aussi de toute l'égyptologie, qui est quelque chose qui est revenu dans la culture classique à partir du XVIIIe siècle. Mais il faut bien attendre le début du XXe pour voir, alors beaucoup au niveau américain, qui eux n'ont pas de mythologie en fait, hein, de base, donc ils ont eu besoin de se constituer leur propre mythologie. Du côté français, avec pas mal de héros, je dirais, qui, sans être des dieux, étaient quand même très proches des demi-héros, des demi-dieux, même si quand on a des exemples un peu à la Fantomas, on est là vraiment sur des créatures insaisissables qui ne peuvent pas être vaincues par le commun des mortels, en fait. Voilà. Mais si on parle de mythologie moderne, dans le monde, de nos jours, la mythologie moderne, elle vient des États-Unis. Donc effectivement, c'est des choses dont on a eu largement le temps de parler par l'intermédiaire de tout ce qui est Pulp Heroes. Hein, donc vous prenez des gens comme The Shadow, vous prenez Doc Savage, vous prenez des personnages qui sont dans le passé, mais Prince Valiant et autres, on a des choses comme ça. Donc on retrouve le mythe arthurien, on retrouve des choses qui sont quand même relativement intéressantes, puisque la civilisation américaine, donc sans mythologie, hein, puisqu'ils ont écrasé un peu les mythologies indiennes quand ils y étaient,
un petit peu,
se sont rebâtis leurs propres valeurs par l'intermédiaire de ces héros, de ces personnages qui maîtrisent à la fois, je dirais, la technologie mécanique, mais aussi qui sont parfois à l'optimum des capacités physiques. Donc on est là sur des dieux qui sont un peu issus de la vapeur, hein, on est un peu dans une logique steampunk au départ, et peu à peu, effectivement, on va accéder à des dieux avec des pouvoirs divins, des pouvoirs scientifiques la plupart du temps. Alors on va parler beaucoup de comics, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important, mais entre Spider-Man piqué par une araignée, et après on révèle que c'est un totem, enfin on est dans la mythologie, quoi. Concrètement, voilà. Mais entre deux,
c'est d'ailleurs le côté totémique est quelque chose qui aurait été réinventé très tard, mais qui finalement on s'en rend compte effectivement tellement ses ennemis sont un bestiaire animal, que même si c'était pas mis en forme d'emblée, il y avait comme toutes les bases qui étaient là au départ.
Voilà. Et donc, avant de parler comics, hein, on arrive à vous mettre du comics à chaque thématique qu'on utilise, c'est quand même assez énorme. Il y a entre effectivement le début du XXe siècle et 1937-38, hein, avec l'arrivée de Superman, qui lui est le vrai premier demi-dieu américain, dans toute l'acceptation du terme, surtout dans le côté symbolique. Il y a tout un passage qui passe par le romanesque, avec entre autres deux personnages qui vont marquer, enfin deux auteurs, un américain, l'autre anglais, qui vont marquer la création de l'idée de création de Panthéon. Le premier, c'est donc Lovecraft, hein, qui va lui sortir de l'idée qu'un Panthéon est forcément basé sur un modèle chrétien. C'est-à-dire qu'il va créer un panthéon par l'intermédiaire donc de l'appel de Cthulhu, et donc du mythe de Cthulhu, hein, qui sont le grand ensemble de textes qu'il a créé, avec des dieux extérieurs, des dieux très anciens, des dieux en fait qui ne cherchent même pas l'adoration humaine, car de toute façon ils sont éternels, et ils s'en fichent en fait. L'homme n'est juste qu'une fourmi à leurs pieds, il faut même pas attention. Donc, en dehors de ces... il y a Lovecraft qui est le premier à casser un peu le jouet et à montrer que la mythologie, ça ne sert pas qu'à transmettre en fait des valeurs morales et autres, symboliques qui viendraient de plus loin, mais qu'on peut inventer de nouvelles choses. De toute façon, est-ce qu'on pouvait avoir de nouvelles mythologies sans la psychanalyse, sans le travail sur l'inconscient? Ça me paraît difficilement possible. Et donc du coup, Lovecraft va être le premier à faire ça. Plus tard, en fait, aux alentours des années 30, vous allez avoir Tolkien, qui va sortir dans un premier temps donc Bilbo le Hobbit, et puis plus tard, dans les années 50, Le Seigneur des Anneaux, et ces deux pics qui sont un peu les deux sommets les plus visibles de l'œuvre de Tolkien ne sont que des points visibles de tout un travail de reconstruction de la réalité, je pourrais dire, Tolkien a non seulement travaillé sur la notion de héros, mais il a créé en fait une mythologie en se basant sur la linguistique. Donc après, effectivement, alors, il a créé un langage il a créé des dieux qui se succèdent, donc pas de la manière la plus évidente quand même, parce que bon, en dehors du Seigneur des Anneaux qui est quand même assez facile à lire, si vous lisez le Silmarillion, prenez un stylo, un crayon et des tubes d'aspirine, parce que quand même, ça donne mal à la tête.
Oui, et puis là, il faut vraiment s'y immerger. Ouais. Effectivement, la prise de notes est vraiment importante pour se rappeler qui est qui, parce que ça devient très touffu et très...
Et c'est là où l'utilisation des panthéons existants est intéressante, c'est qu'elle permet aussi, en jouant sur des références plus ou moins lointaines, de remettre des choses en place. Hein. C'est surtout vrai, effectivement, avec la mythologie gréco-romaine. Ça l'est devenu grâce à Marvel sur la mythologie nordique, parce que, soyons clairs, hein, c'est quand même ce qui fait que... Voilà, qu'on en a entendu parler pendant les 50 dernières années, sinon elle serait peut-être aussi oubliée que la mythologie inuite que John Byrne a essayé de nous réintroduire dans Alpha Flight. Voilà. Mais voilà, il y a des choses qui s'expliquent plus facilement comme ça. On a vu d'ailleurs, enfin, la quatrième mythologie qui ressort régulièrement, c'est la mythologie égyptienne. Déjà parce qu'elle a un graphisme qui est très pratique en bande dessinée. Bilal ne s'y est pas trompé en franco-belge. Elle a, voilà, très unique Paul. Ça a été réutilisé assez tôt dans les années 80 par Marvel quand ils ont voulu nous créer le personnage de Moon Knight pour avoir une version à eux qui va plagier Batman. Et même plus récemment, quand Geoff Jones essaye de nous faire quelque chose autour d'Hawkman et qui nous crée cette nouvelle trilogie Trinité entre Nabu, le Docteur Fate, Black Adam et Hawkman, il arrive à nous recréer ce trio et en se jouant de cette mythologie nordique, cette mythologie égyptienne, qui n'était pas forcément utilisée d'emblée sur les personnages.
Alors, c'est vrai que sur Geoff Jones, c'est l'utilisation de motifs égyptiens, il ne faut pas se tromper. À la lecture, en fait, de l'œuvre de Geoff Jones, c'est peut-être... Et du coup, ça éclaire aussi peut-être d'autres aspects hein, de ce qu'il met en place par rapport à ces héros qui viendraient de l'ère égyptienne. En fait, ce qui l'intéresse, c'est l'Ancien Testament. C'est ça, oui. En fait. C'est pas tant les Égyptiens en eux-mêmes, en fait. C'est l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, quand vous êtes américain, ça vous intéresse beaucoup plus que le Nouveau Testament, où il faut pardonner. Vous voyez, c'est, non, mais voilà, les Américains travaillent, réfléchissent, vivent dans l'Ancien Testament. C'est Fire and Brimstone. C'est, voilà, c'est le dieu vengeur. Hein, quoi. C'est le type qui détruit une ville, quoi. Et du coup, qu'on retrouve de nos jours. Voilà, donc c'est ça qui l'intéresse, effectivement. Et de plus, ce qui était quand même vachement pratique avec les dieux égyptiens, c'est qu'ils ont, c'est des dieux à tête d'animaux. Et les animaux, c'est des symboles. Ils sont porteurs d'un certain nombre de valeurs. Et effectivement, bah, Horus, avec sa tête d'aigle, eh bien, quand vous voyez l'aigle américain, il a quand même une bonne tête. Vous voyez, voilà, donc le chacal, le serpent, tout de suite, on se dit, ça va être beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai qu'on parlait donc de Khonshu, le dieu de la vengeance égyptien. C'est l'un des rares dieux égyptiens à ne pas avoir de forme animale, en fait. Là, c'est assez étonnant, parce que même du coup, pour prolonger hein, sur cette réflexion sur le dieu égyptien, avec la Marvel qui essaie de reconnecter, et même la DC, mais la Marvel surtout qui essaie de reconnecter un peu tout ça, là on apprend récemment qu'en fait, le Black Panther serait l'ultime incarnation en fait de Bastet, donc la déesse à tête de chat égyptien. Enfin, vous dites, ouais, ok, enfin, mais parce que quand vous travaillez sur le symbolisme, surtout sur les animaux symboliques, ben, ils reviennent tout le temps.
Et c'est quand même assez étonnant de voir effectivement cet argument-là ressortir. Parce que bon, une mythologie des dieux africains, on en a déjà une qui avait été développée par Marvel, évoquée, on va dire, plus que développée. Et puis bon, on est quand même sur quelqu'un qui est, Tanushi Gotti, le scénariste, qui travaille énormément sur l'Afrique et ses légendes. Elle fait, enfin, l'Afrique noire, il fait, oui. Et du coup, le fait de voir ressortir tout d'un coup une explication égyptienne est assez étonnant.
Voilà. Même pas non plus de...
C'est pas bête, en fait. Hein.
Non, c'est pas bête, mais c'est étonnant.
Non plus déconnant, parce que quand on regarde dans les liens entre l'Égypte et l'Afrique, et on avait quand même aussi...
Par le Soudan, effectivement, il y a des influences qui sont quand même assez évidentes. Voilà, donc effectivement, donc le panthéon égyptien, je ne poserai pas jusqu'à God of Egypt, parce que je pense que c'est un film qu'il faut savoir laisser reposer dans sa tombe, hein, puisque quand même, là, dans une tentative complètement ratée...
Oui, c'était à l'Exproyas, c'est ça ?
Voilà, de résurrection de la notion de péplum, on était quand même passé un peu à côté, hein, quand même. Voilà. Je pointerai...
J'avoue que je ne l'ai pas vu.
Ah ben écoute, je pense que ça te fera plaisir. voilà. On va parler aussi quand même, donc... des années 60, avec effectivement le retour d'un certain nombre de mythologies qui reviennent au goût du jour, parce que on est dans le flower power, on est dans la conscience écologique qui s'éveille, on est dans la guerre froide et autres. Donc, vous avez un certain nombre de
mythologies. Le sitar,
voilà,
les arbres qui font rire.
Et donc, du coup, on est dans le retour en fait de ces mythologies qui visent le développement personnel, la désincarnation, enfin voilà. Et donc, du coup, on tombe sur le retour du panthéon hindou. Alors, dans le panthéon hindou, il y a beaucoup d'auteurs qui vont se manifester par rapport à ça. Moi, je pense surtout à Zelazny, qui, avec Seigneur d'ombre des Lumières, nous raconte de nouveau le mythe hindou, mais sous une inspiration surhumaine, en fait, puisqu'en gros, il se révèle que les dieux hindous, en fait, c'est des surhumains, tout simplement. Voilà. Alors, juste ce qui est intéressant et qui vaudrait la peine d'être qu'on en reparle, c'est que justement par rapport à Zelazny, par rapport à Seigneur de Lumière, qui est un de ses autres ouvrages, il faut savoir qu'il y avait un film qui avait été prévu dans les années 70 et que le concept art avait été confié à Kirby.
Voilà. Ah, d'accord.
Donc du coup, c'était lors de l'expo Kirby à Angoulême où on avait des concepts art en fait de Zelazny qui était mis à jour, voilà, présenté au public. Par contre, effectivement, pour ceux qui s'intéressent aux comics, le plus grand représentant de l'hindouisme en comics, c'est Monsieur de Mataïs.
Ah bah voilà.
Après... Parce que lui, oulala, il est dedans. Des fois, c'est...
Dans quasiment toutes les religions. Hein.
Voilà. Ouais. Oui, mais il a fait des choses sur les hindous qui sont quand même assez allumées quand même.
Ben, je pense qu'il a fait des trucs allumés dans beaucoup de religions, mais je pense que sur l'hindouisme, il est quand même un de ceux qui a le plus de références obscures, oui, que personne ne comprend. Et c'est vrai que, bon, c'est souvent pas très compréhensible quand des mathéistes partent dans des tripes ésotériques. Et alors, sur les hindous, il nous a fait parmi les plus compliqués à comprendre.
Tout à fait. Donc là, on arrive à la fin de l'émission. On va pas continuer. Enfin, je pense qu'on va laisser là. Peut-être qu'il y a des gens de
Split Screen. Il y a des gens derrière.
Ils sont derrière. Je finirai juste sur l'une des dernières mythologies. Donc, Nora n'aura pas le temps de reparler. La mythologie gaélique. Avec, si vous avez envie de voir un peu à quoi ça ressemblait, le Slain de Simon Bisley.
Pat Mills
de Simon Bisley, qui a fait les grandes heures du comics USA de Zenda dans les années 90 en France, où vous avez l'incarnation effectivement du héros Gaël, donc d'Irlande, avec les dieux qui descendent sur lui et qui transforment en berserk. Voilà, donc c'est vraiment quelques mythologies là qu'on a exploitées. Donc il y a la mythologie amérindienne, la mythologie hindoue, la mythologie égyptienne, la mythologie gaélique,
la mythologie inuite, mythologie africaine.
Voilà. Mais après effectivement il reste les quatre grands, parce qu'il faudra quand même parler de la mythologie chrétienne quand même à un moment donné, mon ami.
Oui. Alors après, qui est aussi souvent, du coup, c'est une religion monothéiste, donc c'est un peu différent.
Oui.
Et surtout, avec lesquels les auteurs ont beaucoup plus de mal à travailler. Souvent, ça se limite d'ailleurs à l'utilisation des anges. Et chez chaque éditeur, on a 80 versions d'explications sur les anges. Parce qu'ils ne savent pas trop comment les gérer et les remettre en forme les uns par rapport aux autres. C'est plus l'utilisation de Mephisto, Lucifer, sous toutes ces appellations, qu'on va retrouver dans la mythologie catholique.